Bon, alors on va tâcher de s'en tenir aux différents points que l'on a photocopiés pour que ce soit plus facile à suivre, en commençant par l'énoncé d'une thèse qui est la nôtre, celle que nous soutenons avec Christian, et qui est relative à ce que l'on appelle justement le néolibéralisme, qui a fait l'objet d'une discussion hier. Cette thèse, on pourrait la résumer en disant que le néolibéralisme pour nous, même s'il peut parfois se présenter sous les traits d'une idéologie, et d'abord et avant tout ce que nous appelons avec Michel Foucault et à la suite de Michel Foucault une rationalité. Une rationalité, c'est-à-dire, pourrait-on expliquer cette notion, un système de normes qui commande et qui régit les pratiques, c'est-à-dire ce que les hommes font. Différence importante parce que un système de normes qui commande de l'intérieur l'action des hommes, ça n'implique pas que les hommes adhèrent intellectuellement et idéologiquement à ces normes. On peut être mis, encore une fois, dans des situations où on est amené à se conformer dans son action à des normes sans pour autant épouser en toute conscience ces normes et considérer que ces normes sont une valeur. Bon. Alors c'est un point assez important pour nous parce que ça donne à cette idée de rationalité néolibérale toute son épaisseur. Et pour faire en sorte que la discussion puisse être aussi claire que possible, je crois que le mieux, c'est de commencer par donner ce qui nous semble constituer les quatre caractéristiques de cette rationalité, sur laquelle on reviendra peut-être dans la discussion. La première caractéristique, c'est que le marché, à l'intérieur de cette rationalité, n'apparaît pas comme quelque chose de naturel. Alors que, par exemple, pour un Adam Smith ou pour beaucoup de classiques au XVIIIe siècle, le marché était en effet quelque chose de naturel, une sorte d'espace naturellement donné, qui venait d'ailleurs limiter l'action du gouvernement. Le néolibéralisme, en tant que rationalité, je ne parle pas nécessairement de l'idéologie, il y a différentes idéologies à l'intérieur du néolibéralisme, mais en tant que rationalité, fait du marché quelque chose de construit. Le marché n'est pas quelque chose de naturel, mais quelque chose de construit. Quelque chose de construit, ça veut dire que ça requiert des règles, et ça veut dire que ces règles doivent être appliquées, on doit les faire respecter, et justement, au centre de ces règles, il y a, et c'est le deuxième point, une règle fondamentale qui est celle de la concurrence. La rationalité néolibérale se caractérise précisément par le fait de donner une primauté et même un caractère central à la concurrence comme norme fondamentale du marché. Nous y reviendrons immédiatement après, et ça n'est pas évident parce que contrairement à l'habitude que l'on a d'entendre parler de cela, c'est quelque chose qui finalement est assez récent dans l'histoire de la pensée et dans l'histoire sociale et intellectuelle et culturelle de manière générale. Cette relation de concurrence, cette norme de la concurrence, c'est une norme, et c'est le troisième point, que l'État doit faire en sorte de faire appliquer, de faire respecter par les agents du marché, eux-mêmes, bien sûr, mais cette règle ou cette norme du marché, l'État doit tendre à se l'appliquer à lui-même. Alors, il ne s'agit pas de considérer que tous les États en sont exactement au même point. Il y a des différences à cet égard. Mais ce qui est important, c'est l'idée que l'État ne fait pas exception. C'est-à-dire que non seulement il doit faire appliquer la règle de la concurrence aux entreprises et surtout faire en sorte que cette règle ne soit pas enfreinte ou violée, mais il doit se l'appliquer à lui-même. Il doit se l'appliquer à lui-même, c'est-à-dire qu'il doit intégrer dans sa propre logique de fonctionnement la logique qui est celle de la concurrence. Ce qui correspond exactement à la formule de ce qu'on appelle le corporate state, c'est-à-dire l'État entrepreneurial, au sens strict du terme. Donc, je n'insiste pas, je donne de façon assez brute et même brutale les caractéristiques pour qu'on puisse en discuter ensuite. Quatrième caractéristique, qui est assez fondamentale à nos yeux, sans laquelle on ne comprendrait pas que le néolibéralisme soit plus qu'une idéologie, mais soit une rationalité, le fait que cette norme de la concurrence doivent être intériorisés par les sujets eux-mêmes dans leur propre fonctionnement, c'est-à-dire par les individus. Le fait que, par conséquent, chaque individu soit plus ou moins incité à se comporter comme une entreprise en relation avec d'autres individus qui doivent être également vus par lui comme d'autres entreprises, ce qui donne, je reprends une formule qui est finalement assez classique dans toute une littérature, l'idée de l'individu comme entreprise de soi, qui est assez classique maintenant. Bon, et ça nous semble assez important parce que ça signifie que cette rationalité va bien au-delà de la relation entre l'État et les acteurs économiques, que souvent on a tendance à limiter un petit peu le prisme en considérant uniquement la relation entre les agents économiques sur le marché et puis d'autre part l'État, mais il nous semble qu'il y a une extension qui est beaucoup plus importante. On pourrait d'ailleurs utiliser ce terme d'extension si vous voulez, pour résumer un petit peu la thèse que l'on soutient avec Christian, c'est qu'il s'agit, avec la rationalité néolibérale, d'une extension de la logique du marché à la sphère, à toutes les sphères de l'existence humaine, et particulièrement à celle intime, qui est celle du fonctionnement des sujets que nous sommes, des individus que nous sommes. Et j'ai dit extension de la logique du marché. Je n'ai pas parlé de marchandisation généralisée. Extension de la logique du marché, c'est tout à fait différent. Ça veut dire que les individus doivent intégrer la norme de la concurrence, mais ça ne veut pas dire que tout doit devenir marché. À la limite même, il faudrait dire que précisément, tout ne doit pas devenir marché pour que la logique du marché soit étendue. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas donc derrière un certain nombre de mots comme ça ou de slogans. Il y a une réalité qui est beaucoup plus complexe, qui se cache derrière, et il nous a semblé important donc de la caractériser comme telle. Voilà donc en ce qui concerne l'énoncé brutal de la thèse, et je crois que c'est important parce que ça permet ensuite d'y voir un peu plus clair. Alors, premier point, dans la mesure donc où cette rationalité est totale, totale au sens où elle est globale, c'est-à-dire où elle est d'emblée donc une rationalité qui prévaut, qui tend à prévaloir à l'échelle mondiale, et une rationalité qui englobe les différentes sphères de l'existence humaine, il nous semble important de revenir sur l'idée de concurrence. C'est le premier point, donc la concurrence au centre du fonctionnement capitaliste, si je reprends le plan que l'on vous a donné. C'est assez important parce qu'il y a des choses très différentes qui se cachent derrière ce terme. Concurrence, bon, on peut parfaitement avoir ce mot à la bouche et l'utiliser dans différents sens. Alors il nous semble qu'il y a à cet égard quelque chose d'assez important à noter dans l'évolution en tout cas des idées. Chez les économistes classiques, chez Smith et Ricardo aussi, même chez Ricardo finalement, vous avez une insistance sur la division du travail, pas sur la concurrence. C'est la division du travail qui est fondamentale, avec la spécialisation qu'elle permet, et cette spécialisation est à l'origine d'une complémentarité. Finalement, tout le monde est gagnant, finalement, parce que sur le marché, il y a une logique qui est une logique d'équivalence. On échange des produits à la même valeur. Bon. Ça, c'est la conception classique du marché, et de la logique de l'équivalence qui préside au marché. Et la concurrence n'est absolument pas le centre. Elle n'est pas du tout vue comme le centre. Elle est vue comme une condition, finalement, du bon fonctionnement des échanges marchands, ce qui est tout à fait différent. Alors, il y a un certain nombre d'auteurs qui vont mettre en cause cette façon de comprendre la logique du marché. Bon, il y en a deux qui nous semblent particulièrement importants. Il y en a un qui est assez connu, qui est Marx. Mais il est important de souligner, parce que c'est une chose que finalement on a tendance un petit peu à reléguer, y compris les gens qui se réclament de Marx ont tendance à reléguer ça au second plan. Il est important de relever que c'est quelque chose qu'il repère très tôt. Et hier, je m'excuse auprès de ceux à qui j'ai déjà infligé la lecture de ce passage, mais hier j'ai lu un passage d'un ouvrage qui s'appelle « Misère de la philosophie » qui a été rédigé en 1847, qui est dirigé contre Proudhon. Et Proudhon, à ce moment-là, dans un texte assez important, dit « Voilà, la concurrence, c'est l'émulation industrielle. » Et Marx le reprend dans ces termes-là. « La concurrence n'est pas l'émulation industrielle. C'est l'émulation commerciale. De nos jours, l'émulation industrielle n'existe qu'en vue du commerce. Il y a même des phases dans la vie économique des peuples modernes où tout le monde est saisi d'une espèce de vertige pour faire du profit sans produire. Ce vertige de spéculation qui revient périodiquement met à nu le véritable caractère de la concurrence qui cherche à échapper à la nécessité de l'émulation industrielle. » La phrase, la dernière en particulier, est assez forte. Elle mérite, nous semble-t-il, d'être relevée et d'être notée. Donc, à la différence des économistes classiques, Marx met, lui, au contraire, l'accent sur le caractère fondamental de la concurrence. La concurrence étant comprise, ici, comme la concurrence commerciale, la concurrence par les prix. J'insiste là-dessus, parce qu'il y a un deuxième auteur, qui est Schumpeter, qui est connu également, et qui nous apparaît comme étant finalement celui qui a théorisé un deuxième mode de concurrence, qui est la concurrence par la course à l'innovation. C'est assez important à signaler, parce que souvent on fait les confusions entre les deux, mais justement, Schumpeter, c'est celui qui théorise, qui met en valeur aussi la figure de l'entrepreneur comme conducteur, finalement, de l'innovation. Celui qui secoue, voire détruit les routines et qui est capable, justement, d'aller assez loin dans cette voie-là, quitte, le cas échéant, à essayer de détenir une sorte de monopole d'une rente sur l'innovation pour essayer d'éliminer les éventuels rivaux. Voilà. Alors Schumpeter, ça c'est important parce qu'il voit bien ça, il met bien ça en évidence. Et là aussi, contre une certaine... Alors aussi bien Marx était contre les économistes classiques et Schumpeter, c'est contre une certaine tendance de l'économie néoclassique plutôt, hein, qui résonne en termes d'équilibre général et qui considère par conséquent que c'est le mécanisme de l'offre et de la demande qui est le plus important. Donc tout ce qui intervient comme facteur de déséquilibre, tout ce que Schumpeter est amené au contraire à mettre en valeur, ça leur apparaît au néoclassique comme étant finalement pas très important. Bon, donc voilà deux auteurs qui nous paraissent mettre le doigt sur deux modes assez fondamentaux de la concurrence, même les deux modes fondamentaux de la concurrence. Et il nous semble que c'est assez important à signaler quand on réfléchit sur la concurrence. Dernière chose que je voudrais ajouter, avant de laisser la parole à Christian, c'est que cette mise en évidence donc de la concurrence comme moteur d'une certaine logique de fonctionnement du système capitaliste, c'est quelque chose qui va se trouver pensé d'une manière singulièrement différente à partir de la fin du XIXe siècle. Vers 1880, il y a un philosophe anglais qui s'appelle Herbert Spencer, qui est le père de ce qu'on appelle bon, généralement, à mon avis, à tort, le darwinisme social, qui n'a pas grand-chose à voir avec Darwin, mais voilà, quelqu'un qui va penser la concurrence. Alors, ce n'est pas Schumpeter, c'est avant Schumpeter de toute façon, ce n'est pas Marx non plus. Voilà quelqu'un qui va penser la concurrence comme une nécessité vitale. Donc, ce qu'on appelle le darwinisme de Spencer, c'est ça. Ça consiste à dire la concurrence, c'est le moteur du progrès, parce que la concurrence, ça permet d'éliminer les moins aptes. Alors lui, il n'y va pas par quatre chemins, donc c'est même... Bon, je dirais pas que Schumpeter apparaît comme étant timide à côté, mais de toute façon, il met l'accent sur autre chose. C'est pas la course à l'innovation, il pense pas du tout dans ces termes-là, mais en revanche, ce qui l'intéresse, c'est une logique éliminatoire. C'est pas, alors ça, c'est très important, parce que, évidemment, ça constitue une sorte de rupture par rapport au premier libéralisme, dans la mesure où ce qui prévalait, c'était une logique de complémentarité dans la sphère des échanges marchands, et là, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, chez Spencer, il y a une sorte de valorisation de la lutte dans la sphère économique autour de la concurrence, mais cette valorisation est pensée comme étant finalement la transposition à la sphère économique de ce qui vaut généralement dans la sphère du vivant, de la vie. Voilà. C'est l'essence de la vie, la concurrence, la compétition, voilà, c'est l'essence de la vie, et finalement, il est normal qu'il en soit ainsi dans la sphère du marché, et donc il est normal qu'on laisse jouer la logique d'élimination au maximum. Voilà. Spencer, c'est celui qui sans doute est allé le plus loin. Il y a beaucoup de gens parfois, quand on entend les discours, qui sont sans doute spencériens sans le savoir, mais il a donc laissé un certain nombre de traces, parce que c'est quand même des choses que parfois on entend. Il faut savoir que c'est lui qui est à l'origine donc de ce type de discours. C'est lui qui a essayé de le fonder pour la première fois philosophiquement. Voilà, donc, à notre avis, ça représente un tournant. Spencer représente un tournant. Non pas parce que le néolibéralisme va s'en inspirer, parce que la plupart des penseurs néolibéraux, lorsqu'on leur parle de Spencer, c'est l'horreur. Je ne sais pas, bon, il suffit de prendre quelqu'un comme Hayek, par exemple, qui pourtant est un évolutionniste, se dit lui-même évolutionniste, qui se réfère à Darwin, il n'arrête pas de dire « moi je suis un évolutionniste culturel, ça n'a rien à voir avec l'évolutionnisme biologique de Spencer hein. ». Donc il faut... Quand même, à propos de Spencer, remarquez que c'est à la fois quelqu'un qui est assez important, il opère un tournant, et en même temps, c'est une sorte d'épouvantail. C'est vraiment le type dont la plupart des néolibéraux ne veulent pas entendre parler, parce que justement, il opère une sorte de réduction un peu biologisante. Il pense la concurrence en termes, finalement, dans le prolongement de la biologie. Voilà, donc, en ce qui concerne le premier point.
Très bien, j'enchaîne. Donc, comme, je vais faire comme Pierre, c'est-à-dire... Autant dans notre livre, on a fait une histoire, d'ailleurs compliquée. Là, on essaie de donner des points de repère. Donc, si je veux enchaîner sur ce que vient de dire Pierre, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est le glissement de sens de la concurrence. Et moi, j'insisterai sur une expression très spencerienne, qui est la survie des plus aptes. C'est absolument, je crois, essentiel d'entendre ce terme. Ce qui apparaît donc sous la plume de Spencer et qui va diffuser, je veux dire, sur le plan de la culture, sur le plan des opinions, sur le plan des évidences, surtout dans le monde anglo-saxon, mais aussi en Europe, avec cette idée qu'il faut bien entendre que la concurrence est un principe donc de sélection et d'élimination, avec des effets favorables, puisque seuls les plus forts survivent dans un monde de compétition. Évidemment, une thèse ou une posture qui a des implications politiques et morales extrêmement fortes, puisque ça donnera, y compris aux États-Unis et en Europe également, par exemple, les formes d'eugénisme social, d'élimination ou de gens qui peuvent être considérés comme des handicapés, des malades mentaux, etc. Bon, c'est important à comprendre, par exemple, l'importance de la rupture qui s'opère. C'est important de le retenir pour comprendre la rupture qui s'opère justement dans les années 30. Dans les années 30, il y a quand même quelque chose qui semble désormais impossible à beaucoup, c'est de soutenir très ouvertement cette idée d'élimination des plus faibles. Il y a le nazisme, il y a toute une série d'événements politiques qui font qu'il y a un certain nombre de thèses qui ne peuvent plus être formulées. Ce n'est pas pour autant que cette logique profonde de sélection et d'élimination des plus faibles par les plus forts va complètement disparaître. C'est important à retenir, on pourra en parler. Mais dans les années dont je parle, c'est-à-dire les années 20 et 30, l'entre-deux-guerres, il y a aussi quelque chose qui va être de plus en plus difficile à soutenir, c'est l'idée que le laisser-faire, tel qu'il était défendu par les vieux libéraux, par les spencériens, est le meilleur système et qu'il conduit à l'équilibre économique. La Grande Dépression en particulier va imposer une révision assez générale des opinions dans les milieux libéraux, dans les milieux des responsables d'affaires, une profonde interrogation et la nécessité, ça va imposer la nécessité d'une refondation intellectuelle du libéralisme. Au fond, ce qui entre aussi en crise, c'est pas seulement les économies, c'est une certaine façon de penser. Et une certaine façon de penser le marché en termes de nature. C'est-à-dire que toute cette vieille idée qui était là, présente depuis le XVIIIe siècle, qui avait été réactivée de façon biologisante par Spencer, est en crise. Et pour nous, pour vous donner quelques repères, je pense qu'on peut dire que le colloque qui a lieu à Paris en 1938, qui s'appelle le colloque Walter Lippmann, du nom d'un journaliste publiciste américain, est un moment charnière. Le colloque Walter Lippmann se propose donc très explicitement de refonder le libéralisme et de repenser le capitalisme dans un contexte et selon des paramètres qui ne sont pas complètement sans rapport avec ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire précisément un moment de crise où on se dit tout ce qu'on a voulu faire, tout ce qu'on pensait être dans le sens du progrès de l'histoire et des sociétés, finalement aboutit à une catastrophe épouvantable, pas seulement économique, mais aussi sociale et aussi politique, et va très vite déboucher en 1938 sur la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire que ça se passe un an avant la déclaration de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Et évidemment, ce qui se passe dans le colloque, évidemment, est en quelque sorte déterminé par ce contexte mondial. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce colloque? Je passe sur les détails, mais ce qui importe, je crois, de retenir, c'est que ce profil, déjà, s'esquisse le néolibéralisme comme, finalement, une doctrine dont les fondements et dont les principes sont assez différents et se veulent assez différents du libéralisme classique. L'un des points sur lequel il faut insister, c'est l'idée que le néolibéralisme n'opposera plus simplement le marché et l'État, comme finalement deux sphères complètement étrangères l'une à l'autre, mais le néolibéralisme va faire en quelque sorte du cadre juridico-politique, c'est-à-dire de l'intervention de l'État, une des conditions du fonctionnement de la concurrence. C'est-à-dire qu'au fond, on ne joue plus sur ces limites, je veux dire en quelque sorte en extériorité l'un à l'autre du marché et de l'État, mais on essaye de penser l'interpénétration des deux, l'intrication des deux, et il est pour les néolibéraux dominant dans le colloque, assez évident que sans intervention active de l'État, la concurrence, un système concurrentiel, un ordre économique concurrentiel ne peut pas fonctionner. Alors, il y a des Français, il y a des Allemands, il y a des Autrichiens, il y a quelques Américains. Walter Lippmann est tout à fait sur cette ligne-là, cette ligne, je dirais, interventionniste. Et il y a d'autres économistes qui se distinguent par, justement, cette défense du cadre. Ce sont les Allemands, des économistes et des philosophes allemands, qu'on va appeler des ordolibéraux, c'est-à-dire des libéraux qui pensent en termes d'ordre. Ordre, c'est-à-dire une mise en ordre, Ordnung, une mise en ordre de l'économie et même de la société qui est opérée par l'intervention de l'État. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est, je crois, aussi important à retenir, c'est que dans cette doctrine-là, on a en quelque sorte l'idée qu'on retrouvera dans les pratiques d'après-guerre, c'est-à-dire le rôle actif des institutions publiques dans la mise en place d'un système concurrentiel et dans son entretien. Et ce qui est, je le dis comme ça, ce qui est curieux, si vous voulez, c'est que cette idée étant souvent passée sous silence, oubliée, etc., on reste idéologiquement toujours, les uns et les autres, dans cette idée qu'il y a entre le marché et l'État une exclusion, une espèce d'étrangeté, si je puis dire, d'extériorité de l'un à l'autre. Alors que ces gens-là ont pensé, dès les années 30, au contraire, le rapport de condition, en quelque sorte, entre l'État et le marché. Bon. Alors, vous me direz, c'est très, très joli, les ordolibéraux, c'est doctrinaire, etc. Mais en fait, qu'est-ce que ça... Ben, ça a eu un impact extrêmement important dans un pays qui n'est pas loin d'ici, qui est notre voisin allemand. C'est-à-dire que ces ordolibéraux ont été de facto, à partir de 1947, les principaux inspirateurs de la reconstruction allemande, de la construction politique de la RFA, et les principaux inspirateurs économiques de la politique, en particulier de Ludwig Erhard. Plus encore, et c'est un autre point de repère extrêmement important, l'ordolibéralisme allemand a été l'un des grands courants qui a inspiré, il n'est pas le seul, mais qui a inspiré la construction européenne, puisque, si on réfléchit bien, la construction d'un marché par des institutions, avec des règles qui sont des règles juridiques et politiques, va tout à fait dans le sens de l'ordolibéralisme et donc de ce courant européen du néolibéralisme. Bon. Alors, ce qu'il faut bien, se souvenir, donc, au fond, le néolibéralisme, d'une part, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui trouve ses sources dans la grande crise de l'entre-deux-guerres, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est pas quelque chose qui nous vient du monde anglo-saxon, comme on le dit, répète sans cesse, c'est quelque chose qui est profondément issu de l'Europe et de l'Europe continentale et qui répond à un certain nombre de problèmes. Pour les ordolibéraux, il semblait extrêmement clair que face au totalitarisme, d'un côté le nazisme, de l'autre côté le communisme stalinien, il fallait inventer quelque chose d'autre et que pour inventer quelque chose de viable, il fallait absolument susciter l'intervention de l'État, repenser l'intervention de l'État et non pas l'exclure. La catastrophe venait aussi du fait qu'on avait exclu toute forme d'intervention de l'État et créé des déséquilibres de toutes sortes. Mais il faut aussi retenir que cette politique de la mise en ordre, de la politique du cadre, est une politique qui maintient au centre l'idée de la concurrence. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une intervention de l'État pour la concurrence, qui ne va pas réduire la concurrence, mais au contraire la susciter, l'organiser, faire en sorte qu'en effet, on aura on veillera, par exemple, à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effet de monopole, que le marché du travail fonctionne bien, donc que les syndicats ne soient pas trop forts, etc. C'est-à-dire qu'il y aura des interventions actives pour faire en sorte que la concurrence soit bien le principe de fonctionnement de l'économie. Plus encore, la concurrence doit être comprise aussi comme quelque chose qui va organiser les rapports entre les groupes sociaux et les individus. Donc il y a une dimension sociale qui est prise en compte, et je crois que une expression typiquement ordo-libérale comme économie sociale de marché, l'économie sociale de marché, c'est pas du tout le modèle social avec l'État social et la redistribution. C'est une grosse erreur, c'est une énorme erreur que l'on fait systématiquement, en particulier des gens de gauche qui se réclament de l'économie sociale de marché. C'est historiquement une aberration, puisque c'est typiquement l'expression ordo-libérale qui vise en fait à faire une politique de société telle que la concurrence puisse effectivement être le principe d'organisation de l'économie et de la société. Bon. Voilà. Donc voilà, c'est quelques petits repères que je voulais donner. Et puis donc, pour passer au troisième point, donc la concurrence comme norme générale de la vie sociale et du fonctionnement subjectif. Bon. Alors, il faut d'abord rappeler que la concurrence, alors là, il faut aller bien au-delà de la construction européenne. La concurrence, au fond, a été, je dirais, installée au cœur de la régulation mondiale. Bien évidemment, par étapes, Pierre a rappelé qu'au XIXe siècle, ce principe de concurrence commerciale était déjà largement lancé. Cependant, il faut quand même remarquer qu'il y a des inflexions et des tournants. La crise des années 70, les crises pétrolières, l'inflation, l'érosion des taux de profit, cette crise qui affecte, je dirais, les capitalismes nationaux avec des régulations que les économistes appellent la régulation fordiste. Toutes ces formes d'organisation économique et de système économique entrent en crise, donc dans les années 70. Et une des issues de la crise, une des principales sorties de crise, de voie de sortie de crise, ça a été avec, d'un côté, le monétarisme, la solution monétaire, ça a été, au fond, la mise en concurrence de plus en plus ouverte et directe des entreprises, des économies, les unes avec les autres. C'est-à-dire, au fond, on a pris modèle un peu sur les champions qui semblaient pouvoir sortir tous les pays de la crise, c'est-à-dire en fait les grands oligopoles, les grands groupes, disons, à dimension internationale, qui, au fond, présentaient comme une sorte de modèle de productivité et de rentabilité, et donc qui allaient tirer toutes les économies parce que, eh bien, elles allaient porter les investissements ailleurs, elles allaient créer de l'emploi si on les accueillait chez nous. Enfin, c'est bien connu, les années 80 et 90 sont des années donc où la mondialisation, ce qu'on appelait la mondialisation, dont le vecteur était ces grands groupes internationaux, donc va imposer une espèce de règle beaucoup plus forte encore qu'avant, qui est celle de la concurrence mondiale entre les entreprises, les économies et plus encore, et plus loin encore, ben, les systèmes étatiques, les systèmes fiscaux, les systèmes de protection sociale, puisque finalement, dans cette logique générale de concurrence, rien n'y échappe, et en particulier pas les conditions de mise sur le marché de ce qu'on appelle des facteurs de production. C'est-à-dire que, en gros, les marchés du travail vont être peu à peu mis en concurrence les uns avec les autres. Les travailleurs vont être, alors par secteur, évidemment, par segment, mais de plus en plus exposés également à la concurrence. Et ça ne sera pas seulement donc les biens et services qui seront mis en concurrence sur les différents marchés par l'interpénétration des échanges et des investissements à l'extérieur. Ça sera également donc l'ensemble, finalement, des systèmes sociaux. Bon, on pourrait prendre de multiples exemples de ça. Donc les politiques qui vont être mises en œuvre à partir de là vont toutes être des politiques de compétitivité. C'est-à-dire que toutes les politiques qui vont être menées, les politiques économiques, bien sûr, politiques monétaires, mais également les politiques sociales, vont toutes être peu ou prou affectées par les conditions nouvelles, les contraintes nouvelles, comme on va les appeler, les contraintes de la concurrence. Et au fond, c'est toute la politique je veux dire, tout le système politique et plus encore tout le système normatif, qui, c'est-à-dire tout le système des règles, des lois, des normes de fonctionnement de notre vie collective, qui vont être affectées par cette logique de concurrence qui, donc, a été mise en place comme norme mondiale. Donc, une norme mondiale de la concurrence. Le deuxième point, c'est que la concurrence, comme je l'ai dit, elle ne peut pas être limitée simplement à des relations économiques. C'est ça le problème. C'est que les économistes, on y reviendra dans le débat, j'espère, les économistes font valoir tous les avantages de la concurrence pour le consommateur, pour l'amélioration de la productivité, pour l'innovation. La concurrence comme principal moteur de progrès économique. Bon. Seulement, la question, elle échappe aux économistes pour une large part. C'est qu'il y a une porosité à partir du moment où une société fonctionne aussi, et surtout dans nos économies aujourd'hui, elle fonctionne aussi pour l'économie. C'est-à-dire on est travailleur, on reçoit des indemnités, on est des contribuables, etc. Donc finalement, peu ou prou, cette logique de concurrence qui est économique entraîne toute la société dans son mouvement. Et cette concurrence devient peu à peu le fonctionnement du monde du travail. Ce que l'on a vu, c'est par exemple dans les années 80-90, on a vu une transformation du management dont vous êtes tous au courant. Un management qui change et qui lui aussi intègre cette pression de la concurrence et qui, au fond, va peu à peu mettre en concurrence les équipes, les entreprises, par des systèmes de comparaison, des systèmes d'évaluation, et qui peu à peu aboutit donc à une mise en concurrence générale à l'intérieur même des entreprises, et pas seulement entre entreprises, à l'intérieur même des entreprises, des salariés entre eux. C'est ce que on voit aujourd'hui de plus en plus et qui fait dire à un certain nombre de gens que le management rend malade les travailleurs. Donc je pense que c'est aussi, une des sources de votre présence ici et de votre questionnement. C'est-à-dire, au fond, est-ce que ce management est effectivement pathogène? Mais s'il l'est, en tout cas, je crois qu'il importe de savoir que ce management n'est pas une réalité en soi, c'est-à-dire qu'il est lui-même pris dans une logique générale, une rationalité, comme nous disons, qui pousse un certain nombre de gens qui adhèrent ou qui n'adhèrent pas, peu importe, là, pour le coup, peu importe, puisque c'est un système de normes, qui pousse le management et les managers à, en effet, entrer dans cette logique et la renforcer, la créer, la constituer par leurs actions. Alors, troisième point, la concurrence n'est pas seulement le mode de rapport entre les gens, c'est aussi le mode de rapport à soi-même. Et c'est ce que nous appelons justement la concurrence comme norme de fonctionnement subjectif. Alors, tout ça pourrait paraître un peu poussé, parce qu'on est là, on parle entre nous, on n'est pas dans une logique concurrentielle. Et heureusement, nous ne sommes pas pleinement encore des êtres ou des sujets néolibéraux. Je pense que ça serait d'ailleurs difficilement supportable. Mais au fond, on doit s'interroger, comme le font des psychanalystes ou des philosophes aujourd'hui, sur le changement des subjectivités et sur l'émergence de nouvelles pathologies que des psychiatres, des psychanalystes repèrent, en conformité d'ailleurs avec ce que les sociologues observent dans le monde du travail. Des nouvelles subjectivités qui amènent les psychanalystes à parler par exemple de néo-sujets, comme Jean-Pierre Lebrun, le psychanalyste belge, qui au fond nous décrit un individu qui est un individu calculateur, stratégique, maximisateur, je dirais presque à l'ancienne, l'homme économique tel qu'il a été inventé au XVIIIe siècle, mais un homme qui, au fond, est de plus en plus l'homme de la compétition, avec comme modèle imaginaire le champion des sports de haut niveau. Voilà. Qui, d'ailleurs, il faudrait s'interroger pourquoi, dans notre imaginaire, le sport de compétition de haut niveau a pris cette importance-là. Et comment, d'ailleurs, le management, très souvent, recycle le vocabulaire des commentateurs et des discours sportifs dans l'entreprise. Parce que je crois que c'est assez important de comprendre que on façonne des gens, on façonne des subjectivités, de sorte que des gens doivent se vivre comme toujours en lutte, toujours ayant toujours comme devoir de dépasser le score précédent. Nous appelons ça donc la logique de la performance, le management de la performance. Et au fond, on a l'impression que ces subjectivités se modifient progressivement à partir du moment où, à un certain degré, cette logique de performance est intégrée, incorporée à la façon d'être de la personne. Et donc, on a affaire à des petits sujets compétitifs, mais évidemment qui développent des rapports aux autres assez difficiles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas... Ils sont avec les autres, mais sur un mode un peu spécial, c'est qu'ils sont à la fois avec les autres et contre les autres. Ce qui implique, en effet, une manière d'être et une manière de se rapporter aux autres et à soi qui n'est pas sans conséquence sur la morale que l'on a, sur les valeurs, et même sur la qualité de vie que l'on peut avoir. Voilà. Donc, voilà en gros l'idée. L'idée, c'est que quand on parle de concurrence, on ne peut plus simplement s'arrêter au champ économique à cause de ces formes de porosité, d'extension, du fait que l'économie, c'est de l'humain. Mais ce sont des hommes au travail et que ces hommes au travail, ils ont aussi une vie personnelle et qu'entre le travail et la vie personnelle, eh bien, il y a plein de contacts. Voilà, ça c'était la partie 3. Je suis censé faire la partie 4.
On peut sauter la partie 4 et puis
oui.
Parce qu'on revient dedans, mais c'est vrai. Parce que
sinon, on en reparlera.
Et surtout, je t'inquiète pas, je ne commencerai pas par d'un mot ou en quelques mots, je serai bref, je serai vraiment bref. Donc, je passe directement à la question 5, ou point 5, c'est-à-dire à la question de la rationalité alternative. Et le point de départ, c'est ce que nous avons appelé, mais nous ne sommes pas les seuls à le dire, la réémergence ou la résurgence de la question des communs. Nous faisons attention au vocabulaire, nous parlons en effet des communs au pluriel, parce que nous reprenons tout simplement une vieille expression anglaise qui a eu son importance notamment au XVIIe siècle et même au XVIe siècle. Dans l'Angleterre... du démembrement de ce qu'on appelait les terres communales, justement, puisqu'on parlait des commons à l'époque, précisément pour désigner ces terres. Et le démembrement des terres communales s'est fait dans une logique qui était celle d'avantager les gens qui pratiquaient l'élevage du mouton, puisqu'on a commencé à pratiquer justement des clôtures. On a parlé des enclosures, justement, on reprend le terme ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de chercheurs, il y a deux chercheuses américaines en particulier, qui ont mis l'accent sur l'importance de cette réappropriation du vocabulaire. Parce que c'est un vocabulaire qui finalement est assez ancien, le fait de parler comme ça des communs. Et elles se sont demandé un petit peu pourquoi. Pourquoi cette reprise de la vieille notion des communs, dans un contexte, semble-t-il, extrêmement différent, puisqu'il ne s'agit pas de terres laissées à des paysans pauvres, par exemple, pour qu'ils puissent faire paître leurs bêtes ou récolter prendre des bouts de bois, des brindilles, des ramis, comme on disait à l'époque. Il s'agit tout à fait autre chose. C'est dans le milieu, en fait, de l'informatique que cette question des communs a été renouvelé et reposé d'une manière assez importante. Donc il faut savoir ça, parce que c'est quelque chose d'assez peu connu. Les anglo-saxons se sont mis à parler des new commons, précisément à propos des connaissances de l'informatique, des logiciels libres. Et il y a eu toute une réflexion qui a été conduite, justement, souvent par des gens qui étaient, non pas des universitaires, mais des gens qui étaient directement impliqués dans ces mouvements, il y a eu toute une réflexion sur, justement, les nouveaux communs. Et le fait de dire les nouveaux communs, ça implique, bien sûr, une mise en rapport avec les anciens. Déjà, le fait de dire comme ça, nouveau, alors ça a été un petit peu aussi contesté, critiqué, etc. Mais ce qui est important, c'est ce mouvement de redécouverte d'une tradition dans un contexte complètement différent où il ne s'agit plus de champs, de terres, bon... Et c'est intéressant de se poser la question de savoir pourquoi. Parce qu'il nous semble que, justement, une réflexion sur une rationalité alternative ne peut pas faire abstraction de cette question-là. Comment en est-on venu et pourquoi en est-on venu à parler de nouveaux communs ? Alors, ce qui nous paraît, justement, décisif, c'est que En fait, dans les anciens communs, il n'y avait pas que les champs ou des terres ou des portions de terre. Il y avait une intelligence collective. L'intelligence collective des paysans qui utilisaient ces terres. Et ce qui s'est perdu avec ces anciens communs, c'est cette intelligence collective. Donc ce n'est pas simplement, encore une fois, un certain nombre de surfaces qui ont été démembrées pour être redécoupées en fonction, disons, de propriétaires privés. Mais c'est l'idée que derrière le commun, il y a, derrière tout commun, finalement, il y a une intelligence collective et que cette intelligence collective doit être préservée, enrichie, et elle doit être préservée et enrichie par ceux-là même qui en sont les bénéficiaires. Alors c'est une idée qui est assez importante, cette idée-là, nous semble-t-il, parce que, en fait, ce que les informaticiens et les concepteurs de logiciels libres ont fait, c'est qu'ils se sont dit, bah, finalement, on assiste aujourd'hui avec la mise en place du système des droits de propriété intellectuelle à un mouvement de remise en cause des communs que l'on peut penser par analogie, je dis bien par analogie, avec le mouvement de démembrement des communs. Il s'agit d'une analogie. Une analogie, ce n'est pas tout à fait une comparaison. Une analogie, c'est exactement une relation entre deux rapports. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut bien sûr la prendre avec beaucoup de prudence. Mais derrière cette analogie, il y a une idée qui est forte, me semble-t-il. Cette idée, c'est que derrière les communs de connaissances, par exemple, il y a aussi une intelligence collective à défendre. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens des logiciels libres, finalement, ont réussi à faire ce que, par exemple, les chercheurs dans le milieu scientifique n'ont pas tellement réussi à faire. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, en effet, à préserver cette intelligence collective, enfin d'une manière qui est en tout cas assez intéressante, puisque leur tentative suppose une certaine idée du commun qu'il faut défendre, et cette idée du commun, elle tranche relativement à une certaine représentation, une certaine conception qui est assez couramment répandue. Je prends un livre qui a été symptomatique à une certaine époque de la réflexion sur les communs. C'est un livre d'un dénommé Hardin, en 1968, qui s'appelait « La tragédie des communs ». Et ce livre-là, c'était un livre... Alors, il a fait figure pas du tout de pionnier par rapport aux études actuelles, mais c'est un livre qui a marqué un tournant, parce que c'est quelqu'un qui a dit « Les communs, vous voyez ce que c'est les communs ?» C'est on laisse à un certain nombre de gens une utilisation commune de quelque chose, et finalement... Ils font n'importe quoi, parce que chacun tire la couverture à soi, et le résultat, par conséquent, c'est que c'est le gaspillage, très très vite, par une sorte de surexploitation, et ça conduit à l'échec, et c'est dramatique, la tragédie des communs. Et donc c'était à l'époque un discours qui était plutôt censé justifier ou légitimer des processus de privatisation ou d'appropriation privée exclusive, puisque les communs laissés à eux-mêmes ne pouvaient qu'aboutir à un échec cuisant. Bon, donc c'est assez intéressant, parce que l'idée qu'il y a derrière, c'est que les communs, c'est forcément quelque chose qui représente une sorte de stock ou de réservoir dans lequel les individus vont puiser de façon complètement égoïste, sans se soucier finalement de ce que fait leur voisin, de telle manière que ça ne peut qu'aboutir à l'échec. Bon. Alors ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont initié le mouvement des logiciels libres ont mis en évidence qu'il y avait une autre idée, une toute autre représentation et une toute autre idée derrière l'idée qu'ils se faisaient justement des communs. Et il me semble que philosophiquement, c'est intéressant parce qu'on peut en revenir à la racine de commun. C'est un terme, finalement, dont l'histoire sémantique est assez peu connue. Parce que quand on dit commun, on entend le cum, latin, on entend moins l'autre terme. Et munus, en latin, c'est un terme qui a plusieurs significations, mais c'est un terme qui a au moins une double signification, celle de l'obligation ou du devoir et celle du don, de telle manière qu'il faudrait arriver à lier justement les deux pour comprendre exactement ce que dit la notion de commun. Il y a un don qui a le pouvoir d'obliger ceux qui en bénéficient. Une idée assez forte. Donc l'idée d'un don qui oblige ceux qui en bénéficient. Donc ça veut dire que non seulement on ne peut pas en disposer comme ça à sa guise, en faire n'importe quoi, mais on est tenu du seul fait, justement, qu'on est bénéficiaire de ce don, on est tenu de le préserver et de l'enrichir. D'où toute l'idée qu'on trouve dans le mouvement des logiciels libres sur le fait que N'importe qui, bien sûr, peut, mais à condition qu'il respecte les règles. Cette idée, par conséquent, que ce n'est pas du tout un marché où chacun vient se servir, quitte à épuiser ensuite, justement, le bien commun, de telle sorte qu'il n'en reste plus rien, mais que c'est quelque chose qui suppose des règles collectives, qui ont été définies consciemment et librement, par des gens qui acceptent ensuite d'en devenir les gardiens. Cette idée-là nous semble assez forte. Elle nous semble assez forte parce que, alors il y a un terme, en anglais je finirai par cette remarque, il est difficile de traduire en français, qui est « commoners ». Parce que « commoners », c'est pas l'usager. Alors, il arrive très souvent en français qu'on traduise ça par « usager ». Bon, mais c'est un terme qui est beaucoup plus actif, qui dit quelque chose, un rapport beaucoup plus actif justement au commun. Bon, je ne sais pas s'il faudrait introduire un néologisme, dire communeur, bon, ça ne dit rien, et puis c'est une invention pure et simple. Mais ça aurait le mérite de faire ressortir l'idée que ce sont des gens qui sont des co-participants d'une gestion collective. Donc ça, c'est très important, parce que c'est pas du tout « chacun fait ce qu'il veut », etc. Ça n'a plus rien à voir, absolument plus rien à voir. Or, il nous semble qu'aujourd'hui, c'est une idée qui est très forte, qui vaut pour les connaissances, bien sûr, qui vaut donc au-delà pour un certain nombre d'autres questions sur lesquelles on viendra dans la discussion. Ça vaut pour la gestion de la biodiversité, ça vaut pour la gestion des ressources naturelles, ça vaut pour la gestion des connaissances, ça vaut pour... toute une série d'autres problèmes, je pense, auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. Mais il nous semble que c'est à partir de là qu'on peut dessiner justement les lignes de force d'une rationalité alternative. Autrement dit, la question des communs, elle nous apparaît, je passe comme ça la parole à Christian pour finir, elle nous apparaît comme une question centrale dans la mesure où elle permet de poser la question des limites, finalement. Il y a un concurrentialisme, il y a une rationalité qui est fondée sur la concurrence. C'est une rationalité qui est potentiellement illimitée, parce que il n'y en a jamais assez. Et à la fois de concurrence et de choses qui sont produites par la vertu de la concurrence et de relations humaines qui sont générées par la vertu de la concurrence. Et donc il y a une logique d'accumulation qui est une logique illimitée, c'est une logique de l'illimitation. Et il nous semble que poser la question des communs dans ce sens-là permet justement de poser la question cruciale qui est la question des limites, la détermination collective des limites. Voilà, ça nous semble ici quelque chose de vraiment très très important.
Alors juste pour terminer, nous avançons l'idée que face à la raison de la concurrence, une autre logique est possible, une autre raison, la raison du commun. Comme Pierre vient de le dire, et je crois qu'il a utilisé un mot important, c'est un principe actif, c'est un principe créateur, c'est pas seulement le principe du partage de ce qui existe. Si vous voulez, à la limite, on pourrait avoir comme idée que par la main invisible du marché, puis la main visible de l'État, on pourrait laisser faire le marché selon l'intérêt privé, créer des richesses, parce que seules les richesses viendraient de l'intérêt privé. Et puis, il y aurait une logique qui viendrait après, c'est l'optique social-démocrate, en gros, qui redistribuerait finalement une partie des richesses qui auraient été créées selon une dynamique privée. Bon, c'est pas du tout comme ça que nous voyons les choses, il faut bien être clair là-dessus, parce que nous essayons de penser le commun comme un principe actif, si je puis dire, et créateur, y compris en termes de richesse, mais également en termes de liens humains. Parce qu'il nous semble quand même assez évident que dans les choix qui ont été faits, les choix de société ou de civilisation, si vous voulez, c'est un grand mot, mais on a privilégié très largement justement la productivité et la production des biens par rapport aux liens. Alors il nous semble que à partir de ce principe, en effet, on peut penser une autre rationalité. Mais cette rationalité, elle ne vient pas de rien. Elle n'est pas quelque chose qui serait imposé de l'extérieur. Je crois que dans le monde que nous vivons, il faut bien comprendre que cette raison du commun, elle existe et elle agit. Elle est présente dans tous les groupements humains et elle est présente dans les entreprises aujourd'hui comme hier et comme demain. C'est-à-dire que c'est une rationalité qui est en acte, qui existe, mais qui est dominée, voire refoulée, par la logique dominante, la rationalité dominante. On le voit bien dans l'organisation du travail. Quelle entreprise pourrait fonctionner sans cette intelligence collective qui est souvent tacite, qui précisément passe par des échanges d'informations, des dialogues, des discussions, des réunions de groupe, etc. Et puis par une mémoire collective, par des transmissions plus ou moins reconnues, plus ou moins formalisées. Pour une grande part, cette raison du commun est informelle. Elle est comme les connaissances, justement, pour le passage des connaissances. Elle est de l'ordre de l'informel et de l'ordre du tacite. Donc, si vous voulez, je crois que déjà le premier principe pratique pour nous, ça serait de mettre un frein ou un arrêt à la logique destructrice et refoulante qui nie aujourd'hui la dimension du collectif, la dimension de la solidarité, la dimension de l'intelligence collective dans les entreprises. Or, c'est bien une des choses qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui, c'est-à-dire des pratiques managériales, des techniques qui isolent, qui rendent impossible ou qui gênent finalement l'émergence de cette intelligence collective qui est non seulement source de liens, mais source également donc de richesse. Deuxième chose, je crois qu'on peut prendre appui sur toute une série de pratiques qui sont et de rapports humains qui sont pour tout le monde des rapports absolument essentiels. L'éducation, la recherche, la coopération dans le travail, les rapports familiaux, les rapports entre les générations, sont des rapports qui échappent très largement et sans doute heureusement à cette logique de la compétition, de la concurrence. Et l'a rappelé Pierre, ce qui est au centre de ces relations, de l'éducation, de la connaissance, de la recherche, de la famille, c'est une logique qui est plutôt du côté du don, qui est plutôt à chercher du côté du don et de son dynamisme, si je puis dire. C'est-à-dire, comme il l'a bien expliqué, ce que je reçois, je le reçois d'une façon obligée. C'est-à-dire, je me sens obligé de l'accroître, de le cultiver, de l'entretenir, etc. Mais je pense que beaucoup d'activités humaines, de rapports humains, sont de cet ordre-là. Et en particulier l'éducation, on veut bien transformer les écoles en entreprises aujourd'hui, mais les éducateurs, les enseignants sont loin de pouvoir se vivre aujourd'hui comme justement dans une logique de compétition, parce que ce qui les anime très profondément, c'est précisément cette logique du don. Mais au-delà de ça, les services publics, d'une certaine façon, sont encore aujourd'hui animés, très largement animé par cette idée que ce que l'on fait, le sens de son travail, dépasse le seul espoir de la rémunération individuelle et qu'on trouve du sens dans son travail par justement le service que l'on rend à plus largement à une société à des gens très particuliers. J'ai pris l'exemple hier sur le facteur, celui qui met les lettres. Eh bien, des enquêtes sociologiques très intéressantes montrent que lorsqu'on interroge les facteurs, le sens de leur métier est quelque chose d'absolument essentiel. Ça peut paraître effectivement dérisoire, mais c'est absolument essentiel de voir que ce sont des gens qui pensent en termes d'intérêt général. Nous, on traduirait justement par la logique du commun. Bon. Alors, je pense qu'on pourra discuter de ce point-là. Troisièmement, quatrièmement, la défense des communs tels qu'ils existent et agissent aujourd'hui, tels qu'ils fonctionnent dans des institutions ou dans des rapports humains, ne suffira pas. Je crois qu'il y a aujourd'hui devant nous une tâche extrêmement importante, comme l'a dit Pierre, c'est d'enrayer la logique de l'illimitation du capitalisme tel qu'il domine aujourd'hui. Et ceci impose de penser ces limites en termes de communs et d'institutions des communs, en particulier à l'échelle mondiale. Là aussi, une discussion pourrait s'engager sur le rapport qu'on peut établir entre, je dirais, nos pratiques quotidiennes, nos pratiques au travail et l'institution de communs mondiaux, de, comme disent les anglo-saxons, des global commons, dans des domaines très variés, mais d'abord évidemment celui du climat, celui de la santé, celui de la connaissance. On peut, par exemple, essayer d'imaginer une politique mondiale de la connaissance et de l'éducation qui ferait échapper eh bien, cette création de connaissances nouvelles à la logique du marché, avec toute l'importance que ça peut avoir, en particulier dans des domaines essentiels comme, par exemple, la, la santé. Bon, donc, si vous voulez, pour nous, la question, c'est de lier, la question, je dirais, qu'on pourrait appeler, c'est un grand mot, mais la question stratégique pour nous. Hein, mais nous ne sommes pas des stratèges à la tête d'organisation, vous l'avez bien compris. Mais la question stratégique pour nous, c'est d'essayer de penser en même temps cette détermination collective des limites, ce qui suppose évidemment des formes démocratiques d'intervention pour les déterminer, parce que voudrait dire l'institution de commun qui ne serait pas issue d'une pratique démocratique, c'est-à-dire d'une pratique commune. Donc ça, c'est la première chose, la pratique collective démocratique pour instituer les communs, et deuxièmement, le rapport de cette institution des communs comme limite apportée à l'illimitation capitaliste avec l'invention de nouvelles formes de vie. C'est une question que Christian Hansperger a bien posée, qui est vraiment, à notre avis, absolument centrale, et qui fait, au fond, de ces réunions, peut-être, le, je dirais, les points de départ d'une façon de repenser la politique. C'est-à-dire, au fond, qui... aurait pour tâche de lier beaucoup plus fortement qu'on le fait ce que nous faisons, ce que nous disons, notre éthique personnelle et des enjeux qui sont planétaires, disons, qui sont mondiaux, parce qu'aujourd'hui, comme disent les altermondialistes, il y a en effet entre le local et le global des rapports, mais nous, nous allons encore plus loin, nous pensons qu'il y a des rapports plus en plus intime, comme vous l'avez compris, plus en plus étroit, entre ce que nous sommes, nos transformations, je dirais, anthropologiques, le type d'être humain que nous sommes, et les formes de régulation de l'économie, de la société à l'échelle mondiale. Donc c'est des défis absolument colossaux hein, que nous posons là au milieu, mais qui nous semblent devoir être posés justement, au niveau le plus haut et sans hésitation, et je dirais presque sans précaution. Voilà, je crois que c'est ce qu'on a fait. On a posé sans précaution, finalement, des problèmes immenses au milieu de cette séance.
Bien, parfait, merci beaucoup. Il est 10h15. Alors, avant qu'on engage le débat, mais je propose, si vous êtes d'accord, c'est qu'on prenne la petite pause avant de le faire. Je voudrais essayer justement de délimiter un peu ce que pourrait être notre débat. Alors, mon propos n'est évidemment pas de limiter le débat, mais au contraire d'essayer de le cadrer autant que faire se peut pour que nous puissions vraiment avancer à travers ce débat, à dégager des pistes de questions ou de réponses aux questions ou aux propositions qu'ont formulées Pierre et Christian. Donc, je voudrais peut-être qu'on essaye vraiment de bien identifier les propositions qui ont été faites pour qu'on voit par rapport à celles-là, alors, vraiment, comment nous pensons, à travers notre expérience de manager ou d'employé ou que sais-je, comment nous verrions des manières de faire avancer cette logique des communs. Si on estime par ailleurs que c'est une logique intéressante à poursuivre. Hein. Je ne fais pas de présupposés là-dessus, tout le monde peut avoir une idée différente. Et donc si je reprends les grands thèmes que Christian a mis en avant à la fin, et pour être bien sûr de les comprendre et qu'on se mette d'accord là-dessus, il y a d'abord, tu as dit Christian, de mettre un frein à la logique. Bon, la question c'est, ça veut dire quoi concrètement? Je veux dire, c'est beau de le dire, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire de mettre un frein à cette logique? Comment est-ce qu'on s'y prend si on est manager d'une business unit, du patron d'une entreprise, membre d'un conseil d'administration? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? de s'appuyer sur une série de pratiques, tu as parlé d'éducation, etc., de la logique du don. À nouveau, je pose la question, s'appuyer sur une série de pratiques, qu'est-ce que ça veut dire, pratiquement, justement. Trois, tu as dit défense des communs, et là je dirais que pour différencier ce point par rapport au premier, tu as surtout voulu mettre l'accent sur le lien entre le local et le mondial, disant bien que le type d'approche que nous devrions pouvoir développer si on en suit cette logique ne se limite pas au local et doit s'articuler au mondial. Et là, à nouveau, en tant que patron d'entreprise ou manager, comment pouvons-nous y contribuer d'une manière ou d'une autre? Voilà, je pense que ce sont les trois grands axes. Et à nouveau, on pourra dévier totalement de ces axes. Mais peut-être est-ce bon, si vous êtes d'accord, qu'on essaye malgré tout de les suivre, de les analyser l'un après l'autre, pour essayer vraiment de faire en sorte que notre débat dégage des pistes. À nouveau, les discussions qu'on aura ici sont totalement libres, mais il y a quand même malgré tout, et peut-être encore plus que dans les années précédentes, la volonté d'essayer vraiment de faire en sorte que ces réunions, ces séminaires dégagent des pistes pour un débat qui peut aller plus loin que notre débat de ce matin. Et c'est d'ailleurs la volonté que nous avons au travers du site internet qui a été complètement revu, c'est de véritablement faire en sorte que l'on puisse, au-delà du séminaire lui-même, engager une discussion plus large, éventuellement avec des personnes qui n'auraient pas été présentes pendant le séminaire. Donc, possibilité de laisser des commentaires suite à ceci, etc. Et donc, on mettra aussi à disposition la présentation de Pierre et de Christian sur le site pour que vraiment on puisse aller plus loin. Et tout cela est aussi animé de partir du livre de Christian et, je vais dire, d'y proposer des réponses, entre guillemets, pratiques, même si ce mot est peut-être un peu limitant lui-même, mais pour les managers que nous sommes ou que nous voulons être. Voilà, je vais en rester ici. Si vous êtes d'accord, on prend une petite pause maintenant d'une bonne vingtaine de minutes.
Parfait.
Et puis on attaque le débat.
Moi qui dirais non.